France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une marche, une autre, et l'on recommence. C'est sans y penser qu'on monte et descend les escaliers. Sauf quand on rate une marche, évidemment. Alors là, l'escalier se rappelle à notre bon souvenir et l'on se cogne au bord tranchant de la réalité. Mais quelle marche a raté le graveur néerlandais Maurits Cornelis Escher pour que ses œuvres peuplent à ce point notre imaginaire sans se faire une place dans l'histoire de l'art? Pavage déformé et tessellation hyperbolique, ces lithographies construisent mathématiquement des espaces impossibles où le spectateur, littéralement, ne sait plus où il habite. Relativité 1953, cela ne vous dit peut-être rien. Mais si je vous montre ces six escaliers que des personnages montent et descendent et qui creusent dans la page un monde sans dessus-dessous, où il n'y a pas une, mais plusieurs lois de gravité, alors vous vous rendrez compte que vous avez déjà vu l'image ou ce que le cinéma, la publicité, la culture populaire en a fait. Alors, plutôt que de nous laisser enfermer dans les images sans y penser, allons-y voir et tentons de faire de ces escaliers, ce qu'a gravé Escher et bien d'autres, des images de pensée. On ne pense pas assez aux escaliers, écrivait Georges Perec dans Espèces d'espace. On va y penser, aujourd'hui, pour tenter de s'échapper de ces pièges à regard. C'est vrai ça? Pourquoi, dit-on, une cage d'escalier? On en parle donc dans Allons-y voir, en compagnie de Sébastien Rongier et Jean-Hubert Martin, bientôt rejoint par la sociétaire du jour, Sophie Grasse. C'est parti, attention à la marche.
Dans cet escalier, trois plans se coupent à angle droit et des gens sont présents sur chacun d'eux. Deux habitants de ces mondes différents ne peuvent pas se croiser sur le même plan car ils ne partagent pas la même horizontalité ni la même verticalité. Ils peuvent toutefois emprunter le même escalier, mais certains ne peuvent que monter et d'autres que descendre. Aucun contact n'est possible entre eux car ils vivent dans des mondes séparés et ignore l'existence des autres.
Extrait du documentaire d'Arte Escher, l'explorateur de l'infini, de Robin Lutz, 2018. Jean-Hubert Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art et conservateur, même si ce mot vous va très mal, puisque dans les nombreuses expositions dont vous fûtes le commissaire, dans plein de musées européens, à Beaubourg notamment, on pense évidemment au retentissant magicien de la Terre, Beaubourg, 1989, vous avez contribué à placer l'art au large, pour reprendre le titre d'un de vos livres, paru en 2013 chez Flammarion. Et c'est encore le cas avec l'exposition qui se tient jusqu'au 1er mars à la Monnaie de Paris, sur Escher. Vous écrivez dans le catalogue qu'il appartient au groupe des inclassables, des résistants. C'est pas courant, c'est pas ordinaire, une exposition sur Escher.
Il y en a eu beaucoup, mais pas tellement dans les musées d'art moderne.
C'est ça.
Il a été un petit peu marginalisé par les musées d'art moderne, en particulier en Europe. Pas tellement aux États-Unis, mais en Europe. Et il a jamais appartenu à un mouvement.
C'est ça.
De l'avant-garde du XXe siècle.
On peut dire qu'il est au bord du surréalisme.
Oui, on pourrait dire ça. Enfin, je le compare souvent au surréalisme. Mais il n'a jamais appartenu à ce mouvement-là. Il n'a jamais été dans une exposition surréaliste. Et comme les historiens d'art n'aiment pas ce qui sort des petites boîtes et des catégories qu'ils ont établies, eh bien, il reste effectivement un personnage tout à fait singulier.
Inclassable. Oui. Comme vous, Sébastien Rongier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, philosophe et théoricien du cinéma, collaborateur régulier à la revue Remus.net. On vous doit de nombreux livres sur Duchamp et le cinéma, Black Edwards, Olivier Assayas. Vous avez publié en 2016 aux Belles Lettres une très belle théorie des fantômes et en 2025, toujours aux Belles Lettres, L'Esprit de l'escalier qui vous amène ici. Alors évidemment, maintenant, on cherche le motif des escaliers dans vos livres précédents. Par exemple, dans Les Désordres du Monde, Walter Benjamin à Portbou, on en parlait la semaine dernière, paru chez Pauvert en 2017, vous décrivez ce beau mouvement du monument de Danny Caravan dans le petit cimetière de Portbou, je vous cite, « Lenteur du ralenti, les escaliers qu'on descend sont chutes vers l'abîme ». C'est un peu le cas aussi ici.
Exactement, il y a tout un travail d'incertitude que Escher propose dans cette gravure relativité et qui est à la fois la chute et l'impossibilité de la chute parce que nous avons toujours des êtres humains, enfin en tout cas des figurations humaines qui sont là. Et donc c'est ça aussi qui est très très intéressant, c'est que l'escalier nous ramène toujours, en tout cas très souvent, à l'humain.
Alors, c'est une gravure, c'est une lithographie. Il faut commencer par là, peut-être par la technique. C'est celle de Escher.
Il commence avec la gravure sur bois et après, il passe à la lithographie. Mais il a été un excellent technicien de la gravure sur bois, qui est quand même quelque chose de très délicat et très difficile.
C'est d'abord ce qu'on voit, et c'est ce qui rend d'ailleurs si difficile cette description. Qu'est-ce que vous pourriez en dire de cette image qu'on a sous les yeux, la relativité 1953?
Mais si on n'a jamais vu un Escher de sa vie, c'est évidemment difficile de faire en sorte que l'auditeur puisse visualiser tout ça. Mais je dirais qu'il y a un personnage qui est central. C'est un personnage qui sort d'un escalier, d'une cave par exemple, et donc il met le pied sur un sol.
Oui.
Or ce sol, c'est une paroi. C'est une paroi puisqu'il y a une porte juste derrière. Et même, il se retrouve devant une autre paroi, sur sa gauche, qui, elle, correspond tout de suite à un autre espace sur lequel se trouve un autre personnage. Donc, on a une espèce de mélange de différentes manières d'aborder la perspective à point de fuite unique. Mais
là, il y en a au moins trois.
Qu'il en mêle, oui, c'est ça, qu'il en mêle, il y en a trois. Et donc, on se retrouve toujours entre une paroi qui devient un sol ou qui devient un plafond. Et de cette manière-là, tous ces espaces sont reliés par des escaliers. Et comme vous le disiez, c'est sans dessus-dessous.
Oui.
Parce que il y a l'escalier qui monte, mais il y a aussi celui qui est en avers, derrière l'escalier, qui monte et qui descend aussi.
Et donc, ces personnages dont vous parliez, Sébastien Rongier, en même temps, ils montent et ils descendent. Et le sol est le plafond et est aussi le mur.
Absolument. Et c'est ça qui est formidable chez Escher, c'est la création de ce paradoxe et qui est aussi lié à la technique. C'est-à-dire qu'on parlait de la gravure. C'est merveilleux de voir la question du trait, le trait, hein, qui est vraiment très, très important dans la gravure de Escher. Et pourtant, ce qu'il va réussir à créer, in fine, c'est une circularité, et une circularité qui va être paradoxale et qu'on va retrouver à l'intérieur de l'ensemble de son œuvre. Et avec ce personnage central dont on voit hein, ici la situation paradoxale telle que vous l'avez décrite, et puis toute une série d'autres personnages, dont ce personnage qui est situé juste à côté et qui est un homme, enfin un homme, une entité humaine qui lit un livre assis et qui fait peut-être le lien entre tous ces escaliers.
Et qui le rêve peut-être, parce que Jean-Hubert Martin, Escher l'a souvent dit, au fond, mes images vous semblent bizarres, mais vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dans la tête.
Oui, effectivement, mais il avait une imagination absolument extraordinaire. sa grande force, c'est d'utiliser justement la perspective à point de fuite unique qui est devenue pour nous une sorte de vérité. Elle a été adoptée à la Renaissance, contre d'autres systèmes de perspective d'ailleurs. Et pendant toute la période, jusqu'au XXe siècle, elle devient le système pour nous, pour représenter la profondeur sur un espace à deux dimensions. Et là, il devient un espèce de magicien extraordinaire, puisqu'il arrive à faire dire à cette perspective, en fait, exactement l'inverse de ce pourquoi elle était faite.
C'est ça.
Puisqu'il nous emmène dans un tourbillon complètement imaginaire. On a beaucoup parlé de monde impossible pour Escher. Tout ça, ça sort de son imagination, et en ça, il reste un artiste absolument formidable. Je précise un artiste, parce que très souvent, on me pose la question de savoir s'il était un scientifique, s'il était mathématicien, etc. Alors, évidemment, il en a rencontré beaucoup, et il a beaucoup discuté avec des scientifiques, mais il reste très profondément un artiste qui invente un monde complètement différent.
Mathématicien, musicien aussi, peut-être dans l'art du rythme, et voilà pourquoi nous parlons de cette gravure qui s'appelle Relativité. Écoutons un deuxième extrait du documentaire d'Arte Escher, L'explorateur de l'infini, qui justement nous introduit à cette question du rythme, de l'écho musical et de Bach.
Je me suis plongé comme un fou dans l'impression de gravures anciennes. Il faut s'astreindre régulièrement à ce maudit travail. À moitié abasourdi par le son ininterrompu de la radio, je m'échine à ancrer ces plaques. J'adore la musique de Bach. Un court motif s'y répète de multiples façons, à l'identique dans différentes tonalités, énoncé dans un sens ou en miroir, un peu comme des formules mathématiques. Ces motifs ont beaucoup de points communs avec les miens. Eux aussi se répètent sans fin. Dans les deux cas, on retrouve un rythme impérieux, une même quête de l'infini. Je ressens une telle affinité avec la musique de Bach que j'y trouve souvent une source d'inspiration. Un lien indéniable existe entre nous.
Un peu comme un motif mathématique, Jean-Hubert Martin, mais pas tout à fait. En tout cas, Bach est très présent chez Escher.
Oui, parce que les mélodies de Bach sont très souvent faites, structurées de manière à ce qu'on puisse la jouer d'avant en arrière et d'arrière en avant. Enfin, on peut jouer la partition dans les deux sens, et on peut même aller jusqu'à superposer les lignes mélodiques. Et ça correspond tout à fait aux escaliers, n'est-ce pas, l'escalier qui existe devant et derrière. Il a cette espèce de fonctionnement mental qui lui permet de passer du devant au derrière et de mêler des perspectives qui sont complètement différentes.
Votre livre, Sébastien Rongier, L'esprit de l'escalier, ça commence très simplement, monter, descendre. Mais là, justement, on fait les deux.
Oui, c'est a priori, je dis bien a priori, c'est une montée et descente, c'est une des fonctions qui est liée aux escaliers, même si nous avons l'existence d'escaliers dans lesquels on ne se croise pas. Hein, mm-hmm. Si on se souvient de Chambord, de l'escalier à double hélice, et là, tout d'un coup, un paradoxe se pose par rapport à la question de l'escalier, et qui rejoint cette question qui est celle de ces mondes impossibles dont on parlait tout à l'heure.
Ils ne se croisent pas non plus, d'ailleurs, sans doute, les différents personnages sont dans cette triple gravitation.
Les personnages ne se croisent pas, en tout cas dans Relativité. Ce sont des mondes qui coexistent, hein, qui cohabitent, mais qui ne se rejoignent pas. Et c'est ça qui est formidable. C'est, de ce point de vue, Escher, c'est le lieu de l'art, c'est-à-dire il travaille des mondes impossibles, mais il nous représente des mondes impossibles. Et donc, il va au bout de ce paradoxe que seul l'art, d'une certaine manière, peut réussir à tenir. Et de ce point de vue, Bach est très très intéressant à envisager dans cette possibilité d'aller et de retour, hein, puisque vous évoquiez la manière dont il travaille ici, et le rythme, et la possibilité de travailler, y compris dans les tonalités, y compris aussi hein, dans ces messes qu'il pouvait écrire dans un sens, et puis retravailler en proposant la même messe à l'envers.
Hubert Martin.
Oui, mais effectivement, enfin, on peut le comparer à Bach. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il utilise des systèmes de perspectives extrêmement différents. Bon, on pense à Bach à une structure qui est en quelque sorte mathématique, enfin qui se renvoie à elle-même, mais il utilise aussi quelquefois des perspectives curvilinéaires ou cylindriques ou sphériques. C'est-à-dire il recherche toujours une espèce de représentation du réel avec des systèmes qui permettent, sur une surface à deux dimensions, de représenter cette profondeur ou cet espace, mais avec des systèmes extrêmement différents.
Alors on pense évidemment à Piranèse, on est dans cette cage d'escalier assez carcérale en somme, mais évidemment, votre comparaison avec Bach, elle vaut aussi pour dégager, ou en tout cas libérer Escher de cette toute puissance de l'interprétation par les mathématiques, et de comprendre qu'il y a là aussi une aspiration spirituelle, en somme, à la transcendance.
Oui, ça c'est très important, et on le voit dès sa jeunesse, dans les premières gravures. Je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, que dès les années 20-30, il fait des gravures qui montrent des sujets qui vont du côté du fantastique. Il y a toute une série qui traite de sorcellerie, par exemple. Il y a aussi des perspectives extrêmement accentuées. Et là, on voit qu'il y a une espèce de vision qu'il apporte qui n'est pas celle de la perspective exactement d'usage mathématique, si je puis dire. Et il s'intéresse aussi à des formes qui sont ambiguës. On a par exemple des arbres qui, d'évidence, sont anthropomorphes.
C'est ça.
Et il s'intéresse à cette ambiguïté de l'image, ce que Salvador Dali appelait la double image, c'est-à-dire qu'une forme donnée par l'artiste qui peut être interprétée de deux manières complètement différentes et opposées.
Le médiéviste, il reconnaîtrait peut-être une sorte de mysticisme flamand, mais vous, Sébastien Rongier, vous commencez votre livre « L'esprit de l'escalier » par le motif biblique de l'échelle de Jacob et de l'escalier céleste.
Oui, j'essaye de commencer le livre en parlant de l'échelle, parce que justement l'échelle occupe symboliquement toute une place qui fait que l'escalier va être finalement remisé de côté. Donc cette dimension mystique, elle va être d'abord portée par l'échelle de Jacob. Et puis l'escalier va prendre toute une autre place à partir d'un événement qui est la naissance du purgatoire, hein, pour reprendre le titre d'un livre, et dans lequel, avec Dante notamment, l'escalier va prendre une place très très importante sur cette question du purgatoire, de la place du purgatoire et de la place de l'humanité à l'intérieur de ce nouvel espoir qui est donné. Et Dante fait quelque chose de merveilleux dans le passage de l'enfer au purgatoire. Il place désormais des escaliers. Et les escaliers, qui vont avoir une dimension mystique, sont justement le lieu dans lequel, enfin, à partir duquel l'humanité peut progressivement accéder à un espoir.
Et on voit bien, effectivement, Jean-Hubert Martin, que cette question, sommes-nous dans l'enfer, au paradis, au purgatoire, c'est la question aussi.
Oui, on est plutôt au paradis, justement. C'est très intéressant que vous citiez l'échelle de Jacob, parce qu'elle permet d'accéder au ciel. Et il y a cette gravure extrêmement intéressante qui représente l'intérieur de Saint-Pierre, à Rome, et où il y a cette phrase qui parcourt une corniche, qui dit la fameuse phrase du Christ qu'il dit à Saint-Pierre, « Je te donne les clés du règne céleste, du règne des cieux ». Et c'est pas pour rien qu'il met ça. C'est évidemment symboliquement le fait que lui, il se place dans cette position qui est celle de que les Anglais appellent the bird's eye view, la vue de l'oiseau, et d'où ces perspectives tout à fait extraordinaires comme la tour de Babel par exemple, qui se rétrécit d'une manière tout à fait inhabituel, enfin, tout à fait accentué, et il prend très souvent cette perspective qui est celle du ciel.
Alors, la question, c'est de savoir de quel infini on parle, du bon ou du mauvais infini. Je serais tenté de poser la question à un philosophe. Le nôtre, c'est Mathieu Pot-Bonneville, il est directeur du département culture et création de Beaubourg. Il nous envoie des cartes postales, mais là, c'est étrange, celle qu'il nous a envoyée. Il y a des lapins dessus, et je n'arrive pas à savoir combien il y a d'oreilles à ces lapins. Enfin, écoutons-le.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, au clair de la lune, trois petits lapins. Vous connaissez à coup sûr cette version dont l'ami Pierrot s'est éclipsé et qu'on date des environs de 1870. Je serais d'ailleurs tenté de voir dans ces lapins de la lune une influence du japonisme très en vogue à la même période. Mais au fait, des lapins, pourquoi en faut-il précisément trois dans cette comptine? Ni deux, ni quatre, trois lapins. À moins qu'il s'agisse de trois lièvres. Car à ce propos, le site britannique The Three Hares Project, littéralement le projet Trois Lièvres, documente avec précision la récurrence de ce motif qu'on retrouve depuis les bas-reliefs médiévaux des édifices religieux du Devon jusqu'au plafond des temples troglodytes bouddhistes de Mogao, en Chine, au VIe siècle, ou à ce plateau en cuivre iranien du XIIe, ou à ce reliquaire russe de la même période, etc. Partout, c'est la même disposition circulaire. Trois lièvres se distribuent à parts égales les trois tiers d'un disque, la tête orientée vers l'intérieur, et il galope sur son pourtour, cependant que les oreilles qui les relient dessinent au centre un triangle isocèle. Un triangle, autrement dit, trois angles et trois côtés. Même si trois lapins, cela devrait faire six oreilles. Mais la construction géométrique et l'illusion qu'elle crée, comme si les lièvres étaient siamois par les oreilles, si vous voulez, en réduit de moitié le nombre et introduit dans ce motif traditionnel une aberration centrale, dans le même mouvement où elle en referme le cercle et en parfait la symétrie. Voici justement le point qui m'intéresse. Variation sur le thème du tricel, figure spiralée dont le triskel breton est la version la plus connue, ce jeu graphique des trois lièvres a la particularité d'être aussi rassurant que vertigineux. Remarquez, c'est idéal pour une comptine. Si pour endormir les enfants, il faut les réconforter et leur tourner un peu la tête, rien de mieux que trois petits lapins dont les oreilles perturbent le décompte. Ce dont témoignent les images rassemblées par la Three Hares Project, c'est que trois petits lapins, un peu partout dans le monde, ont enseigné à l'humanité qu'on peut dans un même motif faire coïncider la géométrie avec l'ordre cosmique, trois petits lapins en cercle comme les trois positions du soleil à l'aube, au jour et au soir, et créer une forme rigoureuse qui disconvient à l'ordre des choses, ouvrir entre le tracé et ce qu'il représente la faille décorative et troublante d'un paradoxe, comme les trois volets d'escalier dans un tableau d'Escher. Pour le dire autrement, cette archétype symbolise l'infini, mais il le teinte un peu de ce que Hegel nommait le mauvais infini, celui dont on n'arrive pas à se sortir. Ou disons, l'infini de la plénitude et celui de l'insatisfaction, d'une soif de sens impossible à étancher. Vous voilà condamné à compter et recompter les oreilles, à tourner, tourner, tourner encore. C'est pour cette raison qu'il faut trois lapins, pas deux, pas quatre, pour que cela tourne. Aux deux sens contradictoires où l'on dit en français que cela tourne rond et que cela tourne en rond. Tourner en rond, c'est la loi du mauvais infini, celle dont, après Hegel, Michel Audiard a trouvé l'expression définitive dans une formule répétée, évidemment, trois fois.
On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond.
Et si la gouaille de Bernard Blier n'est pas votre genre, songez à la rose de ce vers fameux de Gertrude Stein, « Rose is a rose is a rose ». Écoutez comme ce vers fait bégayer le A égale A des logiciens et valser l'identité des choses. Il faut 3 temps pour une valse. Vous ferez attention tout de même, Patrick, l'autre fois les lapins ont bouffé mes rosiers.
France Culture. Allons-y voir.
L'ai-je bien descendu ?
Patrick Boucheron.
Quelle chute ! Alors oui, j'ai vérifié quand même, le site existe bien et très étonnant, ces motifs, on les trouve d'ailleurs également sur des carreaux de l'art nasride du 14e siècle, 15e siècle, et on retrouve d'ailleurs une des références de Escher, Jean-Hubert Martin, l'Alhambra, ça l'avait vraiment frappé, cette architecture.
Oui, ça a été une vraie rupture dans son œuvre. Ça a été cette visite à l'Alhambra en 1936, où il reste plusieurs jours sur place et il dessine très précisément tous les motifs de mosaïques de pierre, qui sont d'une richesse absolument incroyable, parce que on a ce jeu de positif et de négatif entre des formes géométriques pour la plupart. Et il les dessine et il les classe très précisément en différentes catégories pour pouvoir s'en servir après comme motif de référence. Là où il est très fort, c'est que à partir de ça, il arrive à faire ce qu'on appelle des tessellations. C'est un mot qui n'est pas très courant, qui vient des tesselles. Les tesselles, ce sont les éléments d'une mosaïque. Il arrive à faire ces tessellations où il imbrique des formes géométriques avec beaucoup de talent, et de la même manière qu'il les avait vues à l'Alhambra, mais il arrive à faire ça avec des figures,
oui, c'est ça.
Avec un chien ou un cavalier, etc., qui s'imbriquent réellement les uns dans les autres sans laisser aucun espace qui serait vide.
Et la question de l'espace du spectateur, on va en parler évidemment, et dans cette exposition, vous avez été le co-commissaire, Jean-Hubert Martin, à la Monnaie de Paris jusqu'au 1er mars. Exposition immersive d'ailleurs, on rentre dans ces espaces impossibles qui sont effectivement bord à bord, où on est avec le motif, avec la figure.
Oui. On rentre dedans, réellement. On a plusieurs espaces qui... L'un est une sorte de palais des glaces, comme on les voit dans les fêtes foraines, mais auxquelles on ajoute des projections des œuvres de Escher, quelquefois en mouvement, en dessin animé. Et donc, on est complètement dans cet espace. Il y a également une salle qui est peut-être une installation peut-être un petit peu plus commune, qui est celle d'une salle complètement en miroir, c'est-à-dire le sol, le plafond et les parois. Et là, on a vraiment la sensation de l'infini, parce qu'on ne voit pas où s'arrête notre propre image.
Cet espace est aussi un espace littéraire, on va le comprendre. Mais d'abord, écoutons Les Escaliers de Patrick Modiano, justement chanté par Hugues de Courson en 1978.
Il y a tant d'escaliers dans ma mémoire, tant d'escaliers oubliés avec leur rampe blanche et noire et leur tapis troué. Il y a tant d'escaliers dans mon passé que je monte le cœur battant, tant d'escaliers que je descends sur la pointe des pieds. Le tien c'était l'escalier C, troisième étage fond du couloir, la vieille en escalier à fond de la cour. temps d'escalier, tu changeais toujours d'escalier. Tant de marches et tant de portes, et de paliers de toutes sortes.
Sébastien Rongier, là on est en 1978, et Cher est mort depuis 6 ans, mais il se passe des choses dans l'esprit de l'escalier, qui est le titre de votre livre.
Oui, 1978, c'est une année très très riche pour les escaliers. Cette chanson est très intéressante, parce que outre le caractère mélancolique, y compris dans l'orchestration de la chanson, ce dont il est question dans cette chanson, c'est aussi de se souvenir des escaliers, c'est donc de faire une sorte de rappel de tous les escaliers qu'on a pu connaître et qui pourraient renvoyer à un projet péréquien qui serait celui d'Espèces d'espace,
oui,
qui est un livre qui sort en 1974, dans lequel, vous l'avez cité au début, Pérec, dans un chapitre très très court, nous dit qu'on ne pense jamais assez aux escaliers. Mais dans ce livre de 74, Pérec cite également deux fois Escher. À deux reprises, Escher est présent dans Espèces d'espace. Il l'avait été déjà en 73, dans un livre précédent qui s'appelle Le cabinet obscur,
oui,
qui est un récit de rêve où il y a Escher. Et dans ce livre de 74, de quoi nous parle également Pérec ? Eh bien, d'un projet de livre qui s'appelle La vie mode d'emploi et qui paraîtra en 1978. Or, dans La vie mode d'emploi, l'escalier occupe une place centrale. C'est dans le livre, il occupe 12 chapitres, c'est-à-dire, oui, une place considérable, et c'est véritablement le lieu de l'écriture dans laquelle on peut véritablement voir se déplier secrètement l'ensemble du livre.
Bah écoutez, puisque vous y êtes, l'atelier de création radiophonique de France Culture en 1979 avait demandé à Pérec de lire un extrait de ce chapitre de La vie mode d'emploi. Écoutez-le.
Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça, d'une manière un peu lourde et lente, dans cet endroit neutre qui est à tous et à personne, où les gens se croisent presque sans se voir, où la vie de l'immeuble se répercute lointaine et régulière. Car tout ce qui se passe, passe par l'escalier. Tout ce qui arrive, arrive par l'escalier. Les lettres, les faire-part, les meubles que les déménageurs apportent ou emportent. Le médecin appelé en urgence. Le voyageur qui revient d'un long voyage. C'est à cause de cela que l'escalier reste un lieu anonyme, froid, presque hostile. Dans les anciennes maisons, il y avait encore des marches de pierre, des rampes en fer forgé, des sculptures, des torchères, une banquette, parfois pour permettre aux gens âgés de se reposer entre deux étages. Dans les immeubles modernes, il y a des ascenseurs aux parois couvertes de graffitis qui se voudraient obscènes et des escaliers dits de secours en béton brut, sales et sonores.
Objet pictural, objet littéraire et objet radiophonique.
Absolument, et c'est merveilleux parce que c'est le tout début du livre. Oui. Là, donc on démarre par un escalier et il le dit tout. Passe par l'escalier. Donc l'escalier occupe une place véritablement centrale. Et on pourrait même aller plus loin pour revenir à Escher, c'est que le début du livre nous présente en fait une femme qui va visiter l'appartement d'un des personnages principaux du livre pour en faire l'état des lieux. Et à la fin de ce chapitre, il est question d'une peinture, d'un tableau qui manque et qui est une évocation de Kafka. Et on retrouve des escaliers de nouveau. Donc il y a quelque chose de formidable. Et vous dites que c'est en 1979, et pour boucler la boucle, en 1979, Pérec publie Le cabinet d'amateurs,
voilà,
qui est une œuvre absolument merveilleuse et qui est complètement articulée au cabinet d'estampes de Escher. Le titre, c'est Le cabinet d'estampes, livre dans lequel Pérec décrit un tableau de cabinet d'amateurs, c'est-à-dire
un tableau dans lequel il y a des tableaux et des tableaux. Bien évidemment, le livre de Perec décrit des tableaux qui n'existent pas, d'auteurs qui existent, mais de tableaux qui n'existent pas. Et donc, on a comme ça une sorte de jeu absolument merveilleux dans lequel, eh bien, la place de Escher à l'intérieur de l'œuvre littéraire de Perec est présente. Et elle s'ajoute même, si on va au bout de cette thématique autour de l'année 1974, par deux autres choses. Le fait qu'il y ait la reproduction de relativité dans Un homme qui dort, dans le film qu'il fait oui. Un homme qui dort, et le fait que cette année 74, il achète son appartement 13 rue Linné, et qu'il y a, nous dit Burgelin, dans son appartement, une reproduction de Escher.
Et ça, c'est très intéressant aussi, Jean-Hubert Martin, pour l'histoire de la réception de Escher, cet inclassable qui est dédaigné, c'est vrai, par l'histoire de l'art, mais là, dont on voit bien que les images commencent à se frayer un chemin vers les imaginaires de ses contemporains, et notamment dans ces années 70 et 80, où elles vont être répliquées sur le plan littéraire, sur le plan cinématographique, on va y revenir, sur le plan aussi pictural.
Oui, mais on pourrait même prolonger avec l'idée que l'escalier, en français en tous les cas, est dans une cage. On oui. parle de cage d'escalier. Et je mets toujours ça en rapport avec un personnage qui se trouve dans la gravure qui s'appelle le Belvédère, et un personnage qui est en fait sous l'escalier, derrière des barreaux, comme un prisonnier. Alors, je ne sais pas comment en hollandais on parle de cage d'escalier, si le terme existe ou pas. Mais
Belvédère, c'est une gravure un peu médiévalisante où on voit effectivement oui. des personnages comme dans un Van Eyck et qui
oui, gravissent des personnages médiévaux oui. ou de la Renaissance, etc. Elle est très intéressante parce que c'est ces genres de constructions que nous présente Escher qui semblent au premier abord parfaitement normal, etc. Et ce n'est qu'en regardant très attentivement qu'on se rend compte que l'échelle qui permet d'aller du premier étage au second étage du Belvédère est totalement impossible, parce qu'il a simplement déplacé l'endroit où les colonnes devraient être sur la balustrade.
C'est une question effectivement que vous posez beaucoup dans votre livre, Sébastien Rongier, L'esprit de l'escalier. Un escalier, c'est un entre-monde habité. Voilà. Et donc, le fait de dire que c'est un espace impossible pose évidemment la question du spectateur, ou en l'occurrence du lecteur chez Perec.
Oui, parce que l'escalier ne devrait pas être un lieu, ou en tout cas, le fait que l'escalier soit tellement ancré dans notre quotidien semble s'être effacé. Les arts vont nous rappeler à son bon souvenir, mais ce qui est intéressant quand on réfléchit un petit peu à la place de l'escalier, c'est que c'est un lieu de passage, c'est un entre-deux, c'est la signification d'une frontière que l'on va accomplir dans la montée ou la descente de l'escalier. Et de ce point de vue, il a une valeur symbolique qui est absolument passionnante. En plus d'avoir une valeur anthropologique qui me semble être négligée. Je dis un tout petit peu dans le livre, dans une demi-blague, que l'escalier est peut-être l'invention la plus importante de l'humanité, hein, en concurrence avec la roue. C'est une demi-blague, mais elle n'est qu'à demi.
Oui, alors dans sur votre site internet, vous faites une autre version de votre livre avec que les images, justement, et on voit aussi beaucoup d'images de cinéma, parce que je l'ai dit au début, vous êtes aussi un théoricien du cinéma. Alors l'escalier au cinéma, ça c'est quelque chose, mais c'est presque un personnage chez Hitchcock, évidemment, mais pas seulement, un personnage dramatique, enfin de l'intrigue finalement.
Absolument. C'est-à-dire que l'escalier qui pourrait n'être qu'un élément de décor, en réalité va être un véritable lieu de mise en scène et de travail d'un imaginaire cinématographique. Dans le livre, je propose et j'invente une catégorie, hein, le cinéaste d'escalier. Il y a quelques représentants comme ça de cinéastes dont l'œuvre entière est quasiment intégrée à une logique d'escalier, à commencer par Hitchcock, hein, bien évidemment. Et c'est très intéressant de voir que Hitchcock
Hitchcock, l'ensemble de son cinéma est traversé par les escaliers, et que les escaliers sont à la fois des lieux dramatiques, des lieux symboliques, des espaces de mise en scène, mais également des lieux d'expérimentation du cinéma, de l'expérimentation technique
par
du
exemple.
Cinéma. Bah, tout simplement, si on prend l'exemple de Vertigo,
oui. hein,
avec le travelling décompensé qu'il met en place à l'intérieur de ce film, ou dans Psychose, avec le meurtre d'Arbogast, qui est vraiment un moment extraordinairement travaillé par Hitchcock, et en essayant de trouver des solutions techniques à cet imaginaire terrifiant que devient chez Hitchcock l'escalier.
Et puis parfois le motif ou sa citation est cher, en l'occurrence des escaliers des chairs, sont plus explicitement convoqués, notamment dans Inception. Écoutez.
Cobb said you'd be back.
I tried not to come, but...
But there's nothing quite like it.
It's just... pure creation.
Shall we take a look at some paradoxical architecture? You're gonna have to master a few tricks if you're gonna build three complete dream levels. Excuse me.
What kind of tricks?
In a dream, you can cheat architecture into impossible shapes. That lets you create closed loops, like the Penrose Steps. The infinite staircase. Paradox. So a closed loop like that will help you disguise the boundaries of the dream you create.
Alors, dans ce film de Christopher Nolan, le principe est celui d'agents secrets et ou de personnages qui sont des voleurs qui créent des rêves partagés à partir desquels ils vont pouvoir manipuler les personnes. Et il y a une idée qui est celle d'un empilement de structures de rêves, mais qui, pour exister, doivent être architecturées. Et pour cela, il font appel dans cet extrait à une jeune architecte qui doit justement créer des mondes et qui sont des mondes qui sont des projections imaginaires. Et le personnage qui s'appelle Ariane dans le film, qui a été testée en devant créer des labyrinthes, et le labyrinthe qu'elle crée, c'est un labyrinthe circulaire.
Oui.
Hein, et donc on retrouve le motif circulaire.
En tournant rond, comme aurait dit Mathieu.
Et donc ici, on va avoir dans ce passage l'utilisation de l'escalier de Penrose comme étant justement ce qui va permettre d'être...
Penrose, c'est ce mathématicien qui a beaucoup lu, enfin en tout cas est cher. Et qui fait notamment un triangle impossible, hein, c'est ça.
Il y a le triangle impossible, et puis il y a cet escalier qui est en boucle, qu'on ne cesse de monter. Et dans le film, on a la mise en scène de cet escalier. Alors, c'est très intéressant parce que Nolan va dans deux directions. La première, c'est une direction qui, je dirais, serait très pédagogique, où il nous montre et il nous explique. Et puis ensuite, on reste dans un cinéma hollywoodien, et avec Nolan, ça devient ensuite un espace de film d'action.
Oui.
Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais dans l'extrait, le personnage d'Ariane revient, parce qu'au départ, elle ne veut pas aller plus loin dans ce travail, et elle revient, et que dit-elle ? Elle dit qu'elle revient parce que pour elle, c'est « pure creation », de la création pure. Et on revient sur ce que l'on disait tout à l'heure autour de cette notion de mondes impossibles que seul l'art et que seul, d'une certaine manière, Escher réussit dans sa pratique artistique à proposer.
Et puis ce qui est intéressant aussi, Jean-Hubert Martin, c'est que le catalogue de l'exposition de la Monnaie de Paris se termine par un chapitre qui s'appelle Escher Mania. Oui. Là, on y est. C'est-à-dire que c'est l'œuvre hors d'elle-même, qu'on ne croit pas connaître, mais qu'on connaît par ces citations, y compris dans la culture cinématographique. C'est une seconde carrière, au fond, pour Escher, qui était, bon, dont la renommée est finalement ambiguë. A-t-il réussi ? N'a-t-il pas réussi ? De son point de vue, il n'était pas vraiment totalement exempt de une certaine rancœur, mais voilà.
Oui, mais il avait réussi dans son domaine, disons, de celui de la gravure. Il était parfaitement connu et célèbre, et il a été adoubé, effectivement, par beaucoup de scientifiques.
Mais il se méfiait aussi, enfin, quand Mick Jagger lui demande une pochette de disque, il dit non, merci.
C'était pour des raisons assez formelles, apparemment.
Il l'avait appelé par son prénom,
oui. Oui, c'est ça, Moritz, c'était un monsieur qui ne répondait pas à ce genre d'apostrophe comme ça. Non, mais je pense qu'il a quand même eu une vraie notoriété, mais pas tellement dans le milieu de l'histoire de l'art moderne, etc. Mais effectivement, il a été repris dans la publicité, il a été repris sur un très grand nombre de couverture de disques, où il a été vraiment pompé, on peut dire. Ouais. Et il a eu ce succès auprès de toute une génération hippie, parce que ça correspondait au psychédélisme.
Sauf que, justement, c'est pas tellement psychédélique au départ, parce que ce sont des gravures au noir, hein, rappelons-le, et il détestait qu'on le colorise. Or, on l'a beaucoup colorisé.
Et on l'a fait. On se permet de le montrer dans l'exposition aussi, en lumière noire. On a montré certaines de ces images qui ont été coloriées avec des couleurs tout à fait phosphorescentes.
Mais dans notre imaginaire psychédélique, est-ce que vous ne pensez pas que, y en a un dont on ne parle pas, mais qui a quand même un peu concurrencé et cher, c'est Vasarely, dans cette manière, au fond, de présenter également des trompe-l'œil pop.
Et Vasarely admirait beaucoup Escher, c'est avéré maintenant. Il était un petit peu plus jeune que lui. Simplement, le talent de Vasarely a été de passer à l'abstraction, qui était très à la mode à l'époque, et à faire de la peinture en grand format. Alors que Escher est toujours resté un graveur dans le noir et blanc et dans son domaine très spécifique.
Sébastien Rongier. Si on reste dans le noir et blanc, il pourrait y avoir un héritier qu'on pourrait aller chercher dans la bande dessinée. Je ne sais pas si vous connaissez les bandes dessinées de Marc-Antoine Mathieu, à Kefak, qui est essentiellement une bande dessinée en noir et blanc et qui va véritablement utiliser les univers de Escher et d'autres influences et qui sont très très présentes et où on retrouve ce noir et blanc qui est Escherien.
Il y a aussi Druyer. Qui s'est servi des escaliers justement dans une de ces planches d'une bande dessinée. Donc effectivement, dans la bande dessinée, il a été très utilisé.
We'll be right back.
c'est bien un Maribel me glisse dans le casque. Laurence Millet, dont on ne louera jamais assez la programmation musicale Falling Down the Stairs 2011. Bonjour Sophie Crass.
Bonjour.
Alors là, on tombe pas dans les escaliers, on monte, on descend, on fait quoi ?
Et oui, l'escalier fait partie de ces technologies de la vie quotidienne qui permettent de faire à la fois une chose et son contraire, descendre et monter. Tout comme un tournevis sert à la fois à visser et à dévisser, ou une porte à entrer et à sortir. Escalier, vis, porte. Voilà déjà un petit échantillon du vocabulaire visuel des chairs qui, décidément, s'intéresse à la réversibilité des gestes permises par les choses. À en croire, en tout cas, ces petits personnages dont on ne sait s'ils montent ou s'ils descendent et s'ils pourront jamais arriver ailleurs qu'à leur point de départ. Alors, la réversibilité de l'escalier ou de la porte n'a, en fait, rien d'évident. On peut très bien décider de la suspendre, pour une question de gestion des flux, par exemple. Quiconque a déjà mis les pieds dans une préfecture ou dans un grand supermarché sait bien qu'il existe des portes pour y entrer et des portes différentes pour en sortir. Et de même, l'escalier à double révolution, dont nous parlait Sébastien Rongier tout à l'heure, est inventé à la Renaissance pour permettre d'associer dans une même construction un escalier pour descendre uniquement et un autre pour monter, de façon à ce que ceux qui montent et ceux qui descendent ne se croisent jamais. Alors pour les designers des 19e et 20e siècles, ces technologies réversibles sont associées à une certaine modernité, à l'efficacité, au gain de temps, mais aussi à un certain désordre. Alors je propose de prendre ici l'exemple de l'histoire du crayon-gomme.
Ah oui, c'est une histoire qu'on connaît malheureusement trop peu. Là.
Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Au 19e siècle, plusieurs inventeurs et fabricants de crayons conçurent et brevetèrent différents mécanismes visant à intégrer une gomme au bout d'un crayon de bois ou d'un porte-mine, créant ainsi un objet qui fait à la fois une chose et son contraire, dessiné et gommé. En ça, tout à fait comparable au marteau arrache-clou qui plante le clou d'un côté et qui l'extrait de l'autre. Or, les éducateurs aux États-Unis et en Europe eurent tendance à protester contre la généralisation dans les écoles de ces crayons-gommes, qu'ils considéraient souvent comme une source de désordre et un obstacle à l'apprentissage. Les élèves travailleront mieux s'ils n'ont pas de gomme à effacer sur leur crayon, explique un essai de 1903. Plus les erreurs sont faciles à corriger, plus ils en feront. Alors l'idée laisse évidemment songeur. Est-ce que le bricoleur a plus de chances de mal frapper parce que son marteau fait également arrache-clou ? D'un autre côté, il est vrai qu'on est sans doute plus attentif à ne pas rater son étage si l'on sait qu'on ne pourra pas faire demi-tour dans l'escalier et qu'il faudra monter jusqu'au niveau suivant, et chercher l'autre escalier qui permet de redescendre.
Alors, beaucoup de réactions d'auditrices et d'auditeurs qui me disent en substance, mais alors, quand est-ce qu'on revient à Escher ?
Ok, revenons-en à Escher. Et pourquoi pas à l'une de ses œuvres les plus emblématiques, Main dessinant, datée de 1948. Alors, elle représente une feuille de papier punaisée à un support. Et de cette feuille émergent une main droite et une main gauche qui se dessinent l'une l'autre. Leurs deux poignets sont encore bien à plat, tracés sur le plan de la feuille, mais le dos des mains, les paumes, les doigts semblent sortis, comme par magie, de l'espace du dessin pour prendre vie et dessiner sur la feuille dont ils sont issus. Chaque main étant donc simultanément dessinante et dessinée. Alors pour ce faire, ces deux mains se servent d'un instrument identique qui passe généralement inaperçu et sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Il s'agit tout bêtement d'un crayon à papier qui est inséré dans un porte-crayon.
On le voit.
Bon, un instrument assez banal dans l'entre-deux-guerres et qui d'ailleurs n'est malheureusement pas présenté parmi les outils de l'artiste qui sont bien mis en valeur dans une vitrine de l'exposition. Ce porte-crayon, eh bien, il permettait aux artistes économes comme le néerlandais Escher, de tenir en main son crayon, même s'il ne restait plus qu'une toute petite longueur, ce qui donc lui permettait d'user son matériel jusqu'au bout. Or, ce porte-crayon ne comporte pas une, mais deux ouvertures, une à chaque extrémité. La deuxième, qui ici est vide, ne sert pas en l'occurrence à insérer une gomme, mais un deuxième crayon. L'objet n'est plus réversible, mais additif, pourrait-on dire. Or, Escher, on le sait, était graveur. Et ce dessin d'un dessin est en réalité non pas un dessin, mais une estampe. C'est une lithographie. Alors, la lithographie est dans son procédé très proche du dessin. Elle permet d'effacer en cas d'erreur. Mais il n'en est pas de même des techniques traditionnelles de gravure, auquel Escher a été formé, et en particulier la gravure sur bois, qui est généreusement présentée dans l'exposition. Dans la gravure sur bois, lorsque le graveur rate sa taille, eh ben, il ne peut pas si facilement gommer. Tout ce qu'il peut faire, c'est tailler davantage pour tenter de faire disparaître la trace de l'erreur. De même en peinture. Un coup de peinture raté ne saurait être effacé. Il ne peut qu'être recouvert par d'autres coups de pinceau. C'est ce qu'on appelle le repentir. Autrement dit, ces technologies artistiques ne sont pas réversibles. Elles sont plutôt additives. Toute chose égale par ailleurs, c'est comme un escalier qu'on monte, mais qu'on ne peut pas descendre. Si on loupe son étage, on n'a pas d'autre choix que de continuer à monter, en espérant que ça permette d'une manière ou d'une autre de revenir sur ses pas.
D'ailleurs, monter et descendre, c'est le titre d'une autre œuvre archi-célèbre, hein, en fait, Escher.
C'est ça, monter et descendre, monter pour descendre. À l'heure où la fonction CTRL-Z ou POM-Z de nos ordinateurs nous offre la promesse d'une réversibilité instantanée et sans effort, Escher nous invite à méditer sur un monde du tout réversible et sur un monde du tout additif, un monde où on peut monter et descendre et où on peut persister dans l'erreur et finir par avoir raison.
Merci Sophie Kras, jusqu'au 1er mars à la Monnaie de Paris, Jean-Hubert Martin, donc cette exposition sur Escher, avec, vous l'avez dit, une attention toute particulière à la technique, hein, c'est important.
Ah oui, la technique est très importante, en particulier pour les gravures sur bois, parce qu'il était un maître en la matière. Il arrivait à faire des petits traits d'une finesse absolument incroyable. Ça a beaucoup apporté à l'intérêt qu'il a suscité auprès des amateurs de gravure, qui l'ont considéré dès le départ comme quelqu'un de très important.
Oui, ça participe aussi, Sébastien Rongier, de cette ivresse de l'exactitude, en fait, qui désoriente le regardeur. On ne sait pas, au fond, si on doit s'en inquiéter ou s'en émerveiller de ces mondes impossibles.
Mais c'est ça qui est très très intéressant avec Escher, c'est justement et de voir véritablement d'être devant les œuvres. C'est cette exactitude. Oui. Et le paradoxe, l'espèce de vertige que cette exactitude crée par rapport justement au monde impossible qu'il nous propose.
Sophie Kras ?
Un vertige d'exactitude et puis aussi de réversibilité, dans le sens où la gravure, l'empreinte, est précisément une technique qui renverse la droite et la gauche, qui crée des images miroirs. On le voit bien dans l'exposition, en fait, toutes ces techniques de gravure ont des rapports différents au plein et au vide. Dans certaines techniques de gravure, on enlève les parties blanches pour laisser les parties qui seront noires, et dans d'autres, c'est l'inverse. Ce qu'on grave, c'est la partie, c'est le trait noir. Et ça, je trouve que l'exposition montre très bien à quel point le médium, l'employé, en fait, la technique, la fabrique de l'atelier a un sens par rapport au contenu même de ces images.
Et d'ailleurs, relativité, la lithographie dont on parle, bon, elle a un sens parce que évidemment, elle est signée quelque part, mais on a, quand on l'a en main, vraiment la tentation de la renverser, justement, dans tout sens.
Oui. C'est un peu une forme de cubisme, parce que on définit toujours le cubisme comme une méthode qui permet de voir un objet sous plusieurs angles en même temps, c'est-à-dire qu'il abolit le temps. Et effectivement, ça correspond à cette définition, Escher, simplement, il le fait avec une méthode qui était bannie par toute l'avant-garde moderniste du XXe siècle, puisque ce qu'on n'avait plus le droit de faire à partir du début du XXe siècle, c'était se servir de la perspective. Et lui arrive justement à donner cette espèce de quatrième dimension dans ses œuvres grâce à des procédés qui se servent de la perspective tout à fait habituelle de toute la période classique.
Il y a quelqu'un aussi d'ailleurs qui a utilisé les perspectives impossible des escaliers de Escher dans son clip, c'est Michel Gondry pour les Daft Punk. Écoutez. C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Jean-Hubert Martin, Sébastien Rongier et Sophie Kras. Les références de vos livres, de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Jordan Fuentes et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.